Chapitre 10. On ne tarda pas à savoir dans le village que la fille du pêcheur avait été assassinée. Ainsi donc, le maladroit et grossier Momo, en outre de ce qu'il avait été poussé par son esprit méchant et ses instincts égoïstes, avait de plus pris pour une réalité ce qu'il avait vu sur le théâtre. Non seulement il avait fait un voyage inutile, puisqu'il n'avait pas accompli la mission dont il était chargé, mais encore, il faisait partager à toutes ces bonnes gens l'erreur dans laquelle sa grossière ignorance l'avait fait tomber lui-même. La figure de Don Modeste s'allongea encore de deux doigts. Le curé dit une messe pour le repos de l'âme de Maria. Ramon Pérez attacha un ruban noir à sa guitare. Rosa Mystica dit à Don Modeste « Que Dieu lui pardonne, j'avais bien dit qu'elle finirait mal. » Vous vous rappelez que plus je m'efforçais de la conduire à droite, plus elle tirait à gauche. » La tante Maria, calculant que par suite d'une pareille catastrophe, il ne serait pas possible à Don Frédéric de venir pour le moment, se décida à confier le soin de l'oncle Pedro à un jeune médecin qui avait remplacé Stein à Villamar. « Je me fis peu à son savoir, » disait-elle à Don Modeste qui le lui recommandait. « Il ne s'est ordonné que de l'eau tiède et il n'y a rien qui affaiblisse davantage l'estomac. Pour toute nourriture, il prescrit du bouillon de poulet. Dites-moi quelle force peut donner un pareil breuvage. Tout est sans dessus-dessous, mon commandant, mais laissons passer un peu de temps et, détrompés, ils en reviendront à ceux dont l'expérience des siècles a prouvé la vérité qu'au bout de 1000 ans, les eaux retournent là où elles avaient l'habitude d'aller. » Le temps relèvera ce que des mains présomptueuses ont abattu, mais après avoir causé la perdition de bien des âmes et avoir envoyé bien des vivants au tombeau. Le médecin trouva l'état de l'oncle Pedro tellement grave qu'il déclara qu'il était nécessaire de le préparer à la mort. Se préparer à la mort, dans le langage catholique, signifie se mettre en état de grâce, c'est-à-dire régler ses comptes sur la terre en faisant le bien, et en réparant le mal autant que cela dépend de nous, tant dans l'ordre des choses spirituelles que dans celui des choses temporelles, et obtenir ainsi, par la prière et le repentir, la clémence divine pour nos âmes. Si nous donnons cette définition d'une chose si connue et qui se produit chaque jour, c'est non seulement parce qu'il est possible que ce livre tombe dans les mains de quelques personnes qui n'appartiennent pas au giron de notre Sainte Église catholique, mais aussi parce que nous en avons vu beaucoup qui ne considèrent pas comme il conviendrait ces saintes pratiques. La tante Maria se mit à pleurer amèrement quand elle connut cette fatale sentence du médecin. Elle appela Manuel, qu'elle chargea d'aller en faire part au malade avec toutes les précautions voulues, ne se sentant pas le courage de le faire elle-même. Manuel entra dans la chambre du malade. « Eh bien, oncle Pedro, lui dit-il, comment allons-nous ? » « Nous coulons à fond, Manuel, répondit le pauvre homme. Si tu as quelque commission pour l'autre monde, donne-la vite, car je lève l'ancre, mon garçon. » « Allons donc, oncle Pedro, vous n'en êtes pas là. Vous en avez pour plus longtemps que moi. Mais, comme dit le proverbe, affaire terminée ne tracasse plus l'esprit. C'est-à-dire... N'en dis pas plus long, Manuel, répondit l'oncle Pedro sans se troubler. Dis à ta mère que je suis prêt. » « Il y a déjà longtemps que je vois venir ce moment, et je ne pense plus qu'à cela et à elle, » ajouta-t-il à voix basse et avec fatigue. Manuel sortit tout ému et en s'essuyant les yeux, quoique dans sa carrière militaire, il eût été témoin de bien des agonies et qu'il eût vu répandre bien du sang. Tant il est vrai que l'âme la plus ferme s'émeut à la vue de la mort. Le lendemain, il régnait une de ces violentes et bruyantes tempêtes qu'amènent souvent l'équinoxe. Le vent faisait entendre différentes intonations, comme une hydre dont les sept têtes auraient sifflé en même temps. Il frappait la cabane du pêcheur qui craquait avec un bruit sinistre. On entendait cet invisible élément poussant des hurlements lugubres sous les voûtes retentissantes du fort en ruine, sifflant violemment parmi les branches agitées des pins et pleurant dans les roseaux qu'il courbait. Puis il s'enfuyait en gémissant dans les prairies comme l'ombre s'efface graduellement dans un paysage. La mer soulevait les vagues de son sein avec autant de rage et de violence qu'une furie secouant les serpents de sa chevelure. les nuées se succédaient sans cesse, répandant chacune leur contingent d'eau qui tombait à torrents sur les branches rompues et s'ouvrait un large passage dans les entrailles de la terre. Tout frémissait, tremblait et se lamentait. Le soleil avait disparu et la triste teinte du jour était uniforme et lugubre comme un linceul. Bien que la chaumière fût abritée par le rocher, la tempête avait emporté pendant la nuit une partie de son toit. Pour empêcher son entière destruction, Manuel, aidé de Momo, l'avait assujetti au moyen de quelques pierres pesantes tirées des ruines. « Puisque tu ne veux plus loger ton maître, disait Manuel, attends au moins qu'il soit mort pour t'effondrer. » Si quelque autre regard que celui de Dieu avait pu arriver jusqu'à ce désert à travers la tempête qui le bouleversait, il aurait découvert une petite troupe d'hommes qui suivait une ligne parallèle à la mer, affrontant la fureur de la tourmente. Enveloppés dans leurs manteaux, ils gardaient une attitude recueillie et silencieuse et marchaient, le corps penché en avant et la tête inclinée. Un vieillard plein de gravité les suivait à pas lents, les bras croisés sur la poitrine à la manière des orientaux, précédé d'un jeune garçon qui agitait de temps en temps une petite cloche. On entendait par moments, et malgré les rafales de l'ouragan, la voix calme et forte du vieillard qui disait « Miserere mei Deus, segundo magnam misericordiam tuam ». Et la petite troupe des assistants répondait en chœur « Et segundo multitudinem, miserationum tuarum, dele iniquitatem meam ». La pluie les trempait, le vent les fouettait. Ils n'en continuaient pas moins, impassibles, leur marche grave et mesurée. Le cortège se composait de quelques pieux catholiques, membres de la confrérie du Très-Saint-Sacrement, qui, Manuel à leur tête, allaient porter à un fidèle mourant les derniers sacrements, les dernières consolations du chrétien. Rien ne pouvait, autant que ceux que nous venons de décrire, donner plus de relief à cette vérité qu'au milieu même des orages et du tumulte des mauvaises passions, la voix de la religion se fait entendre, par intervalles, grave et puissante, calme et ferme, à ceux-là même qui l'oublient et la renient. Le curé entra dans la chambre du malade. Les enfants qui étaient accourus récitaient les vers suivants qu'ils avaient appris en même temps qu'ils avaient appris à parler. « Jésus-Christ va venir, je veux mourir pour Dieu parce que Dieu est mort pour moi. Les anges chantent et l'univers adore le Dieu si plein de bonté qui vient en ce moment. » La pauvre demeure avait été disposée avec soin et propreté grâce aux soins de la tante Marie et du frère Gabriel. Sur une table était placé un crucifix avec des lumières et des fleurs, parce que les lumières et les fleurs sont les hommages extérieurs que l'on rend à Dieu. Le lit était d'une blancheur éblouissante. La cérémonie, une fois terminée, personne ne resta auprès du malade, à l'exception du curé, de la tante Marie et du frère Gabriel. L'oncle Pedro était calme. Au bout de quelque temps, il dit « Elle n'est pas venue ?»« Oncle Pedro, répondit la tante Marie, pendant que, sur ses joues ridées, coulaient deux grosses larmes que le malade ne pouvait apercevoir. « Il y a loin d'ici à Madrid. Elle a écrit qu'elle allait se mettre en route et nous ne tarderons pas à la voir arriver. » Santal retomba dans la léthargie. Une heure plus tard, il revint à lui et, fixant ses regards sur la tante Marie, il lui dit « Tante Marie, j'ai demandé à mon divin sauveur qui a daigné venir à moi de vouloir bien me pardonner, de la rendre heureuse et de vous récompenser de tout ce que vous avez fait pour nous. » Il perdit ensuite connaissance, puis revint à lui, ouvrit ses yeux déjà vitrifiés par la mort et prononça très intelligiblement ces mots « Elle n'est pas venue !» Après cela, sa tête retomba sur l'oreiller et il s'écria d'une voix haute et ferme « Seigneur, miséricorde !» « Récitez le credo, » dit le curé en prenant entre ses mains celle du moribond et en s'approchant de son oreille pour faire arriver jusqu'à son intelligence quelques paroles de foi, d'espérance et de charité à travers l'obscurcissement toujours croissant de ses facultés. La tante Marie et le frère Gabriel se mirent à genoux. les catholiques conservent à la mort tout le respect que Dieu lui a imprimé en l'acceptant lui-même comme un sacrifice d'expiation. Au dehors, la tempête déchaînée continuait à rugir. À l'intérieur, tout était paix et repos, car Dieu enlève à la mort toutes ses horreurs et ses inquiétudes quand l'âme s'exhale vers le ciel au cri de miséricorde, entourée de cœurs fervents qui répètent sur la terre « Miséricorde, miséricorde !»